pourrait faire un cours entier de...
Oui, enfin de plusieurs dizaines d'heures sur l'évangile selon saint Matthieu, qui est un évangile assez long, qui est l'évangile qui apparaît en premier dans le Nouveau Testament. C'est le premier livre du Nouveau Testament. C'est l'évangile qui est le plus cité par les pères de l'Église. C'est celui aussi où il y a plus de discours de Jésus. C'est peut-être la raison aussi, sa longueur, le fait qu'il apparaît peut-être plus complet que l'évangile de Marc ou des évangiles plus courts, fait qu'il a été beaucoup utilisé dans la catéchèse et beaucoup commenté. Pendant longtemps, on a pensé que c'était le premier évangile qui avait été écrit, notamment depuis saint Augustin. Aujourd'hui, on pense plutôt que c'est l'évangile selon saint Marc. Et selon une théorie assez répandue, l'évangile selon saint Marc aurait servi de source pour l'évangile selon saint Luc et l'évangile selon saint Matthieu. C'est l'évangile de l'année A dans le cycle liturgique, donc c'est l'évangile que nous lirons au cours de cette année liturgique à partir de l'Avent. Alors je voudrais commencer par réfléchir avec vous sur la façon dont est né l'évangile selon saint Matthieu. Donc, comment est né l'évangile selon saint Matthieu? Et puis ensuite, nous ferons un parcours au fil de l'évangile selon saint Matthieu. En essayant de voir comment Jésus se révèle progressivement au fil de cet évangile. Et puis ensuite, nous verrons des points plus particuliers, notamment l'interprétation de l'Ancien Testament dans l'évangile selon saint Matthieu. Alors d'abord, comment est né l'évangile selon saint Matthieu ? Alors je vais faire ici quelques rappels. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un évangile? Qu'est-ce que l'évangile? Est-ce que vous savez d'où vient le mot évangile? Bonne nouvelle. Evangelitein.
Oui.
Et donc, ce verbe évangéliser, annoncer une bonne nouvelle, on le trouve dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre d'Isaïe, en Isaïe 52, versets 7 à 12. Alors, quelqu'un peut lire ces versets? Donc, on est dans la deuxième partie du livre d'Isaïe, les versets 40 à 55, qui s'ouvre par « Consolez, consolez mon peuple ». Et donc, après des chapitres marqués par le jugement, l'annonce d'un retour en grâce d'Israël. même si des annonces de jugement persistent dans cette deuxième partie, mais la tonalité est plus à cette consolation. Alors, quelqu'un peut lire ces versets ?
Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonne nouvelle qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est la voix de tes guetteurs, ils élèvent la voix. Ensemble, ils poussent des cris de joie, car ils ont vu de leurs propres yeux Yahvé qui revient à Sion. Ensemble,
oui. Allez-y.
Ensemble, poussez des cris de joie, ruines 10 de Jérusalem. Car Yahvé a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem. Yahvé a découvert son bras de sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Allez-vous-en, allez-vous-en, sortez d'ici. Ne touchez à rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les objets de Yahvé. Car vous ne sortirez pas à la hâte, vous ne vous en irez pas en fuyard, c'est Yahvé en effet qui marche à votre tête, et votre arrière-garde, c'est le Dieu d'Israël.
Voilà donc une annonce de libération, de salut, et de retour pour ceux qui étaient exilés, de retour à Jérusalem. Et quel est l'objet de cette annonce heureuse, de cette bonne nouvelle ? C'est le salut. Et c'est cette phrase au fond, ton Dieu règne. Et c'est la grande question qui se pose à Israël. Qui règne dans l'histoire ? Qui règne dans les événements de l'histoire ? Est-ce que ce sont les grands empires ? L'Égypte, Babylone, le royaume des Perses, les Grecs, etc. Ou est-ce que c'est le Dieu d'Israël qui règne sur toute la terre et qui règne dans les événements de l'histoire ? Et donc, quand Dieu étend la force de son bras, en Isaïe 52:10, le Seigneur met à nu sous les yeux de toutes les nations le bras déployant sa sainteté, tous les confins de la terre verront le salut de Dieu. Le Seigneur manifeste sa royauté en intervenant dans l'histoire. Donc évangéliser, c'est annoncer que c'est le Seigneur qui règne, qui est roi. Et donc, annoncer l'intervention imminente de Dieu. Alors, on pourrait voir aussi Isaïe 61, versets 1 à 3. C'est le passage cité à la synagogue de Nazareth lorsque Jésus fait la lecture dans le rouleau du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur en effet a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé évangéliser, porter joyeux message aux humiliés, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l'évasion, aux prisonniers l'éblouissement, proclamer l'année de la faveur du Seigneur, etc. Donc, Isaïe 61, versets 1 à 3. Donc là encore, un messager envoyé pour évangéliser, porter la bonne nouvelle, aux humiliés, à ceux qui ont le cœur brisé, etc. Dans le Nouveau Testament, évangéliser et évangile sont utilisés pour deux réalités. D'abord, la proclamation de Jésus. Le premier à évangéliser, c'est Jésus. On trouve ça en Luc 4. Luc 4, 16 à 22. Et puis encore Luc 4, 43. Donc Luc 4, 16 à 22, c'est justement cet épisode de la synagogue de Nazareth, où Jésus lit ce passage du livre d'Isaïe en disant « Il s'accomplit aujourd'hui à vos oreilles pour vous qui l'entendez. » Et puis à la fin du chapitre 4, on voit Jésus qui sort très tôt le matin, qui part dans le désert pour prier, et puis on va le chercher. Les foules vont à sa recherche et il répond « Aux autres villes aussi il me faut annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Évangéliser le règne de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Donc le messager de la bonne nouvelle qui dit « Ton Dieu règne » dans le livre d'Isaïe, dans le Nouveau Testament, c'est d'abord Jésus. Mais on va trouver aussi, dans le Nouveau Testament, évangile pour désigner le message des apôtres. La proclamation des apôtres. Par exemple, en 1 Corinthiens 15, 1, 8. Alors, on reviendra ensuite aussi sur ces versets, donc 1 Corinthiens 15, 1, 8, un lieu important pour comprendre ce que c'est que l'Évangile et ce que c'est qu'un Évangile. Quelqu'un peut lire ces versets ?
Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés, et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Képhas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, l'avorton.
Alors ici, qu'est-ce que c'est l'Évangile ?
Les mots sur la résurrection ?
Oui. Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose dans ce que vous dites ?
L'annonce de la résurrection.
L'annonce de la mort et de la résurrection. Donc, l'évangile, c'est le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc, pas seulement la mort, mais la mort pour nos péchés selon les Écritures. Et il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est le cœur de notre confession de foi tous les dimanches. Quand Paul écrit aux Corinthiens, on est avant même la rédaction des évangiles. Mais Paul a déjà reçu et transmis un évangile. On pourrait faire la distinction entre l'évangile avec un E majuscule et puis l'évangile avec un E minuscule. L'évangile avec un E majuscule, c'est la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Cet évangile, Paul, qui écrit 20 ou 30 ans après la mort et la résurrection de Jésus, Paul l'a déjà reçu lui-même et il l'a transmis. Donc l'évangile, c'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on transmet. Et dans l'Épître aux Romains aussi, peut-être qu'on ne va pas sans lire, mais vous pourrez lire ensuite ces versets. Le début de l'Épître aux Romains, Romains chapitre 1, versets 1 à 16. Et là aussi, Paul parle de l'Évangile au singulier. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, cet évangile qu'il avait déjà promis par ses prophètes selon les Écritures, etc. Donc cet évangile porte sur l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus, mais immédiatement, Paul ajoute, selon les Écritures, annoncer dans les Écritures. Ce sont les Écritures qui permettent de comprendre ce qu'est cet évangile. Et puis on va voir encore le début de l'évangile selon saint Marc. Marc chapitre 1 verset 1. Quelqu'un peut lire ce verset ?
Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Isaïe : Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin.
Voilà. Alors, on pourrait continuer la citation : Une voix crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Comment vous comprenez cette expression, l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu?
On sait tout de suite à qui on va avoir affaire.
Oui, oui, ça c'est vrai, oui.
ce n'est que le commencement, ça continue au commencement. Enfin, ce qui est écrit.
Oui.
Ce qui est écrit n'est que le commencement.
Oui, on peut le comprendre comme ça, oui.
Et c'est selon Isaïe.
Alors, il y a tout de suite la mention « comme il est écrit ». Mais ici, le contenu de l'évangile, au fond, c'est un peu le même sens que Paul.
C'est le messager.
C'est ce qui concerne Jésus, fils de Dieu. Et dans ce qui concerne Jésus, fils de Dieu, il y a aussi ce que Jésus, fils de Dieu, a annoncé. Mais vous comprenez que, au fil du temps, on a pu interpréter ces quelques mots comme étant commencement du livre de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et donc, le mot évangile en vient à désigner le livre dans son ensemble. Et c'est comme ça que évangile va donner aussi, évangile avec un E minuscule, les quatre évangiles. Là, c'est le livre. Alors maintenant, comment sont nés les évangiles ? Reprenons les actes des apôtres. Après la mort et la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé ? Acte 1, 15. Normalement, à la fin de la matinée, on doit avoir des crampes dans les poignets pour avoir tourné les pages de la Bible. Donc, acte 1, 15 à 22. Quel est le contexte ? Judas, l'un des douze, est mort et il faut le remplacer. Pierre se lève au milieu de l'assemblée et après avoir rappelé donc la mort de Judas, il va demander qu'on choisisse quelqu'un qui aura été témoin, acte chapitre 1, versets 21 et 22. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête. À commencer par le baptême de Jean, jusqu'au jour où il nous a été enlevé, il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Donc celui qui va intégrer le collège des apôtres, c'est un témoin, non seulement de la résurrection, mais un témoin de la vie du Christ depuis son baptême jusqu'à son mystère pascal. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête, à commencer par le baptême de Jean. Le début du ministère public de Jésus commence par le baptême, à commencer par le baptême de Jean, jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Enlevé dans le mystère pascal. Donc, après la mort et la résurrection de Jésus, des témoins proclament sa résurrection. Mais si on cherche des témoins qui ont connu Jésus depuis le baptême jusqu'à sa passion, c'est aussi qu'ils sont témoins de ce qui s'est passé avant, le mystère pascal. Donc le cœur du témoignage, c'est Jésus est mort pour nos péchés et il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité selon les Écritures. Mais qui est ce Jésus qui est mort pour nous? Eh bien, les témoins vont raconter ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Ce qu'ils vont annoncer, on va le trouver en Actes 2. Notamment, hein, c'est le discours de Pierre. Israélites, écoutez mes paroles. Jésus le Nazoréen, homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez, cet homme, selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa préscience, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. David, en effet, a dit de lui. Donc on retrouve toujours ce qui est au cœur de l'évangile avec un E majuscule, la mort et la résurrection de Jésus, mais ici, il y a Jésus, le Nazoréen, homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes. Donc déjà, cet homme était accrédité par des signes. Et donc les apôtres racontent aussi les gestes de Jésus, les gestes de salut de Jésus. Et vous avez au fond le squelette d'un évangile. L'évangile nous présente Jésus et la façon dont il est accrédité par Dieu par les signes qu'il accomplit. Et puis l'acte de salut par excellence, sa mort et sa résurrection. Et tout cela s'inscrit dans le plan de Dieu tel qu'il apparaît dans les Écritures d'Israël. Alors c'est cet enseignement qui est donné par les apôtres aux néophytes, aux disciples qui intègrent la communauté. La prédication de Pierre a une fécondité formidable et tout de suite on nous dit en Actes 2, 41 « Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. » Et tout de suite, petit résumé sur la vie de la communauté chrétienne. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain. Donc les apôtres, ça fait partie de la vie de la communauté. ils transmettent un enseignement. Est-ce qu'on nous parle ici d'un écrit ? Non. On est au stade de cet enseignement que Paul lui-même va recevoir. Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts selon les Écritures. Donc déjà, en transmettant l'enseignement, en racontant les événements, on les raconte en les interprétant. Voilà ce qui s'est passé, et c'était bien ce qui était annoncé dans l'Écriture. C'est bien le déroulement du plan de Dieu, l'accomplissement du plan de Dieu. En même temps qu'on raconte, on donne le sens. Un fait brut, d'une certaine manière, n'existe pas. Il est toujours interprété quand on le raconte. Ou alors c'est des statistiques. Mais des statistiques, c'est pas... C'est un regard purement extérieur. Alors, le troisième stade, ça va être ce que Saint-Luc va nous raconter en Luc 1:4. C'est le début de l'évangile selon Saint-Luc où il explique, c'est le seul qui nous explique ce qu'il a voulu faire, et donc c'est très précieux. Quelqu'un peut lire ces versets ?
Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent, dès le début, témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable, Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus.
Pourquoi Luc se met-il à écrire ?
Pour empêcher qu'on déforme ce qui est transmis.
Pour empêcher qu'on déforme ce qui est transmis. Il n'écrit pas pour que le livre en soit... Soit la source de l'enseignement, puisque celui à qui il écrit a déjà été catéchisé. Il a déjà reçu un enseignement. Il veut simplement l'affermir dans cet enseignement, pour que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Et donc il va faire un récit des événements accomplis parmi nous. Donc il se met comme s'il avait été contemporain des événements, mais ces événements étaient transmis par ceux qui ont été les témoins oculaires de la parole. Donc ça, c'est le premier stade, les témoins oculaires. Ensuite, il y a la transmission orale du message. Et le troisième stade, c'est la mise par écrit. Et Luc nous parle d'un récit ordonné. C'est presque une tautologie. Le récit, c'est justement ce qui met de l'ordre dans des événements et qui fait un fil et qui nous explique l'enchaînement des événements.
Il s'est aussi informé exactement.
Pardon ?
Il s'est informé exactement.
Il s'est informé, oui, 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 oui. Il s'est informé de tout exactement. Donc, on voit bien qu'il recueille une tradition. Il est un chaînon dans le processus de la tradition. Et donc, il pourrait dire comme Paul, « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. » Ce qui est nouveau par rapport à Paul, c'est qu'il le transmet par écrit dans un récit ordonné. Paul ne fait pas un récit des actes de salut de Jésus. Simplement, il annonce « Christ est mort et ressuscité ». Et quelles sont les conséquences pour nous ? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour nous que Christ est mort pour nos péchés et ressuscité le troisième jour ? C'est le message qui prend tout, qui est tellement massif que ce que Jésus a fait avant n'est pas encore... enfin, Paul le connaît, mais il ne va pas insister là-dessus. C'est plus tard qu'on commence par mettre, par écrit un récit des événements et donc à écrire une vie de Jésus, au fond. Alors, je vais vous distribuer des feuilles qui retracent ce processus. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait pour tout le monde, donc il faudra peut-être partager. Donc c'est tiré d'un livre déjà ancien de Étienne Charpentier pour lire le Nouveau Testament. Voilà, et vous pouvez situer donc, la vie de la communauté chrétienne, les écrits de Paul qui viennent avant les évangiles et puis les évangiles qui sont sur une échelle chronologique avec vraisemblablement Marc qui est écrit le premier vers 70 à Rome et puis Luc, Matthieu vers 80-90, Jean plus tardivement encore. Il faut remarquer, je vous ai mis la photo d'un fragment de papyrus qui est le plus ancien témoin d'un texte de l'Évangile et on le date d'avant 150 avant Jésus-Christ. C'est un extrait de l'Évangile selon saint Jean en Jean 18. En fait, c'est pour un document de l'Antiquité, c'est très près de la rédaction qu'on trouve déjà un fragment de texte aussi près de la date supposée de la rédaction, c'est-à-dire simplement 60 ans après, pour un document de l'Antiquité, c'est vraiment remarquable. Alors maintenant, comment Jésus a-t-il procédé ? Alors vous retrouverez ces étapes dans le catéchisme de l'Église catholique. Au paragraphe 126, qui reprend la constitution Dei Verbum au numéro 19. Comment Luc a-t-il procédé ? Il dit qu'il fait un récit ordonné. Est-ce que tous les évangiles ordonne le récit de la même manière? Presque. Donc, voilà, dans les évangiles, il y en a trois qui ont beaucoup de récits en commun et de paroles de Jésus en commun. Ce sont les trois synoptiques. Et puis, il y a l'évangile de Jean qui est un peu à part. Mais il y a parfois des événements qui sont racontés de la même manière, mais pas à la même place dans le récit. Qu'est-ce que vous avez en tête, là ?
À monter à Jérusalem, de Jean,
les vendeurs chassés du temple, qui sont racontés au chapitre 2 de l'évangile selon saint Jean, et à la fin des évangiles synoptiques, quand Jésus arrive à Jérusalem pour vivre sa passion. Et puis quoi encore ? Alors là, c'est un peu plus délicat. Est-ce que c'est le même événement ? Est-ce que ce sont deux événements différents ? Mais la pêche miraculeuse nous est racontée au début de l'évangile selon saint Luc. Elle est liée à l'appel des disciples. Et il y a une pêche miraculeuse qui nous est racontée à la fin de l'évangile selon saint Jean. Alors, il y a aussi des discours qui sont placés un peu différemment. Alors, comment ont procédé les évangélistes ? Alors, c'est là où je vous distribue encore une deuxième feuille pour voir comment, en quoi a consisté le travail des évangélistes. Donc, on retrouve sur ce schéma qui vient d'une introduction à l'Ancien Testament faite par essentiellement des professeurs protestants de Suisse sous la direction de Daniel Marguerat, introduction au Nouveau Testament, son histoire, son écriture, sa théologie. Et donc Daniel Marguerat fait au début de cette introduction un chapitre qui s'appelle « De Jésus aux évangiles ». Et donc vous voyez, à l'origine, évidemment, il y a Jésus, sa vie, son enseignement. Et puis, au deuxième stade, il y a la transmission orale. Il y a les enseignements que font les apôtres. Et là, vraisemblablement, déjà dans cet enseignement, on rassemble soit des gestes de Jésus, des récits d'actes de salut de Jésus, de miracles, soit on rassemble des collections de paroles de Jésus. Donc la transmission, elle est déjà organisée. Et alors selon les missionnaires, les apôtres, et puis ceux qui sont avec eux et qui travaillent à l'annonce de la bonne nouvelle, à l'évangélisation, eh bien ces collections sont un peu différentes. Elles naissent dans des groupes différents. Alors sans doute ça communique, parfois peut-être ça communique pas. Bon, arrive un certain moment où sans doute on met par écrit ces collections. Peut-être qu'on associe déjà à certains récits des citations de l'écriture qui permettent de comprendre. Et donc là encore, on a des collections écrites. Et puis vient le travail des évangélistes. Donc ils ont du matériau. Ils ont recueilli les témoignages. Et là, ils vont organiser ce matériau selon leur propre leur centre d'intérêt, les questions qui se posent dans la communauté où ils vivent leur foi, etc. Étienne Charpentier utilise une image que je trouve assez intéressante. Il dit c'est un petit peu comme un montage diapo. Donc aujourd'hui, on dirait une présentation PowerPoint. Vous revenez de voyage et vous racontez votre voyage. Et vous disposez d'un certain nombre de photos. Alors, tous les participants, imaginons un pèlerinage en Terre Sainte, tous les participants vont avoir pris à peu près les mêmes photos. Mais déjà, il y aura des angles de vue un peu différents. Mais ça sera de toute façon les mêmes lieux auxquels ils sont allés. Et après, ben, si vous êtes invité à différentes présentations, il y en a un qui va dire, ben, moi je vais prendre le fil chronologique, voilà, on est parti tel jour à telle heure, on a commencé par faire ça, ça, ça. Puis un autre va dire, ben non, ce qui est intéressant, c'est de voir la progression géographique ou d'après l'évangile, etc. Donc, il va prendre en gros les mêmes photos, mais il va les organiser de façon différente pour être un peu original, pour faire quelque chose de plus attrayant. Et puis, peut-être qu'on se souviendra plus bien dans quel ordre c'était à certains moments, et donc on va se dire, bah, tiens, ça de toute façon, je vais plutôt en parler ici parce que je ne vais pas y revenir après. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait assez spontanément quand on raconte. Alors, on peut prendre cette image. Au fond, au lieu d'avoir des diapos, les évangélistes, ils ont des petites collections. Et puis, ils vont organiser tout ça dans un récit continu. Mais chacun le fait avec sa personnalité, avec son histoire, avec sa culture. Matthieu, on pense qu'il est d'origine juive, qu'il est vraiment d'un milieu juif. Luc nous est présenté comme un médecin et vraisemblablement un converti de culture grecque, qui peut-être déjà était sympathisant du judaïsme. Marc, on sent qu'il ne maîtrise pas très bien le grec. C'était peut-être quelqu'un... Alors, il nous est présenté comme le secrétaire de Pierre par la tradition, mais peut-être que c'est quelqu'un qui n'avait pas une très grande culture, en tout cas, pas comme Paul, hein, ou pas comme Luc. Mais Marc, il est très intéressé par l'ambiance, par le climat. Il va nous détailler la réaction de la foule. On va presque sentir les odeurs, entendre les cris, voir les couleurs. Hein. Matthieu va être beaucoup plus sobre dans ses détails. Et puis Jean, c'est un Jésus qui est majestueux, qui revient toujours dans un style très ample, très, très majestueux. Donc chaque évangéliste a ses caractéristiques propres. Et il y a eu des tentatives au cours de l'histoire de faire un seul récit pour fondre tous les évangiles. L'Église a toujours eu des réticences par rapport à ça. Jamais elle n'a reconnu comme canonique un écrit de... Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose d'artificiel. Au contraire, elle a recueilli la diversité des témoignages. C'est une richesse. Voilà, alors ça c'est encore autre chose. Hein. Mais, parfois, on a la nostalgie de ça. On voudrait revenir là au premier stade, le stade des témoins oculaires, et on voudrait avoir un magnétophone et entendre les paroles de Jésus telles qu'il les a prononcées au magnétophone, parce qu'on est nous dans la culture du magnétophone. Mais la culture de l'Antiquité, elle n'est pas dans la culture du magnétophone. Elle est dans « j'assimile un message et je le transmets ». Et si je le mets par écrit, écrire coûte cher. Le papyrus ou le parchemin, ça coûte cher. Ça prend beaucoup de temps. L'encre coûte cher. Donc quand je mets par écrit, eh bien je dis l'essentiel. Parfois un discours, je vais le résumer. C'est ce qui nous est dit à la fin de l'évangile selon saint Jean. Jean 20, 30. 30, 31. Quelqu'un peut lire ces versets ?
Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Voilà, donc il ne s'agit pas de tout dire. Il s'agit de dire ce qui va permettre de fonder l'acte de foi. Et l'évangéliste sait bien que de toute façon, ce n'est pas possible de tout dire. Et il le dit un peu plus loin, c'est une sorte de deuxième conclusion, Jean 21, 24. Donc on voit bien en Jean 20, 30, 31 que l'évangéliste a fait un choix. Et on voit très bien que Jean fait un choix qui n'est pas le même que les synoptiques. Et Jean 21, 24, 25, quelqu'un peut lire aussi.
Et ce disciple qui témoigne de ses faits, c'est qu'il les a écrits, et nous savons que son témoignage est véridique. Jésus a accompli encore bien d'autres actions. Si on les relatait en détail, le monde même ne suffirait pas, je pense, à contenir les livres qu'on en écrit.
Voilà, donc l'évangéliste sait très bien que il donne à voir un mystère qui est plus grand que ce qu'on peut en dire. L'évangile avec un grand E dépassera toujours les mots de l'évangile avec un petit E. Et donc, il s'agit de donner à voir et surtout de fonder le croire. Pour que vous croyiez et que vous ayez la vie en son nom. Et donc, ce n'est pas l'objectif du magnétophone. Ça veut dire que tout ce processus qui prend 50, 60 ans, c'est un processus qui enrichit les évangiles. Pourquoi ? Parce que pendant ces 50-60 ans, l'Église comprend mieux l'Évangile. L'Église, assistée par l'Esprit-Saint, comprend mieux la signification de la mort et de la résurrection de Jésus, de ses actes de puissance, perçoit mieux combien il accomplit les Écritures et en même temps, il fait éclater les promesses des Écritures. Et donc, si le cœur du message au début, c'était « Jésus est mort et ressuscité », il y a quelque chose qui se déploie au fil du temps. Par exemple, jamais dans les Évangiles, sauf peut-être tout à la fin de l'évangile de Luc où Jésus bénit ses apôtres, ou c'est au début des actes des apôtres, mais jamais Jésus ne nous est présenté comme prêtre. Il n'était pas prêtre. Jésus est un laïc. Jésus est descendant de David et donc il n'est pas descendant de Lévi, de la tribu des prêtres. Jésus n'a jamais offert un sacrifice au temple. C'est seulement après 50, 60, 70 ans, et peut-être qu'il faut l'événement de la destruction du temple par les Romains pour que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et peut-être qu'il n'était pas seul, que c'était sa communauté, pour que des croyants comprennent que, mais si Jésus est prêtre, il est le grand prêtre, l'unique, le définitif, celui qui offre le sacrifice unique, parce que c'est le sacrifice efficace une fois pour toutes. Donc ce n'est plus la peine d'offrir d'autres sacrifices. Et ça, il faut du temps. Mais quelle lumière! Et donc, quand on veut remonter absolument au témoin oculaire et dire « Oui, mais ils ont appris par cœur, et puis ça a été écrit en araméen, et ensuite on a traduit, et donc... » Mais non, on ne comprend pas la médiation de l'Église. Et dans la constitution Dei Verbum, en Dei Verbum 11 à 13, notamment le numéro 11, il nous est dit « Dieu a choisi des hommes auxquels il a eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que, lui-même agissant en eux et par eux, il mise par écrit en vrais auteurs tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. Pour qu'il mette par écrit, je mets un présent du subjonctif et pas l'imparfait du subjonctif de la traduction, pour qu'il mette par écrit en vrais auteurs. » Donc Dieu, quand il confie une tâche à quelqu'un, il lui a donné des talents, il lui a donné des capacités, il l'a préparé pour sa mission, et donc il ne se substitue pas il n'utilise pas l'auteur humain comme un automate qui va simplement écrire sous sa dictée. C'est pas, là encore, si je reprends une comparaison moderne, c'est pas un programme de décryptage vocal qui entendrait le message et qui le mettrait par écrit automatiquement, voilà, sans bouger. C'est pas ça. C'est le témoignage de la vie, la mort et la résurrection de Jésus a retenti dans l'Église. Je le reçois, inspiré par l'Esprit Saint, je le mets par écrit, mais avec tout ce que je suis. Ma culture, ma personnalité, mon histoire, et aussi la vie de la communauté dans laquelle je suis et pour qui j'écris, qui a ses propres questions. Ça va ? Oui. Alors, les caractéristiques propres maintenant de l'Évangile selon saint Matthieu. Qu'est-ce qu'on sait de l'auteur ? En lisant l'Évangile selon saint Matthieu, on s'aperçoit que l'auteur est vraisemblablement un chrétien d'origine juive et qui est sans doute bien au courant des traditions juives, de l'enseignement des sages juifs. Il y a un exemple qui est assez connu, c'est Matthieu 18, 19, 20. « Alors, vous connaissez bien ce passage. On est dans le contexte de la correction fraternelle, donc de l'organisation de la vie de la communauté et de la vérité dans la vie fraternelle. Je vous le déclare encore, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Eh bien, ces derniers mots, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, on les trouve de façon, dans un contexte différent, enfin, il y a vraiment une similitude dans un traité de la Mishnah, qui fait partie du Talmud, donc de ce patrimoine du judaïsme qui a commenté les Écritures et cherché à vivre la loi de Moïse. Alors on trouve ça dans l'un des traités de la Mishnah qui s'appelle les Maximes des Pères, Pirkei Avot. C'est une collection de sentences, un peu comme le livre des Proverbes. Mais ce sont des sentences qui sont rattachées, les proverbes sont anonymes. Alors que là, les sentences sont souvent rattachées à des personnages connus de la tradition. Ça remonte, je crois, les personnages qui sont évoqués, en tout cas, moins 300 à plus 300 après Jésus-Christ. Donc, Maximes des Pères, chapitre 3, paragraphe 3. Rabbi Chanania, fils de Théradion, disait « Si deux hommes se trouvent ensemble et ne s'entretiennent pas de la loi, leur réunion est réunion d'hommes frivoles dont il est dit au psaume 1, « Heureux celui qui ne siège pas parmi les hommes frivoles. » Mais si deux hommes se trouvant ensemble s'entretiennent de la loi, le Seigneur résidera au milieu d'eux, ainsi qu'il est dit, citation de Malachie 3,16, ceux qui craignent Dieu s'entretiennent l'un avec l'autre, l'Éternel prête l'oreille à leurs paroles et inscrit leur mérite dans le livre du souvenir, établi pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Donc, quand on se réunit, ce n'est pas pour parler du dernier match de foot, ça n'a d'intérêt que si on parle de la loi. Et si on parle de la loi, alors le Seigneur écoute. Il est là présent. Alors, peut-être que cette tradition existait déjà au temps de Matthieu, qu'il la connaissait, et que Jésus la connaissait. Voilà, Jésus transforme un peu la sentence en disant « Si deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc non pas l'Éternel, le Seigneur résidera au milieu d'eux et l'Éternel prête l'oreille à leurs paroles, mais « Je suis au milieu d'eux. » Donc, vraisemblablement, quelqu'un qui est de culture juive, un juif de naissance, en 125 après Jésus-Christ, un certain Papias rapporte que Selon lui, Matthieu a rassemblé en langue hébraïque des paroles de Jésus. Et donc, on a fait de Matthieu l'auteur du premier évangile. Alors, cette tradition de Papias, elle nous est rapportée par un historien de l'Église qui s'appelle Eusèbe de Césarée. En fait, on a jamais retrouvé le moindre fragment, la moindre trace d'un évangile écrit en hébreu ou en araméen. Donc, encore une fois, on nous dit, oui, mais il y avait un évangile araméen, mais ce sont des hypothèses, des reconstitutions. Les seuls textes dont nous disposons sont des textes écrits en grec. Alors, on peut faire l'hypothèse qu'ils ont été des traductions d'originaux écrits en araméen, mais ça reste des pures hypothèses. Pour l'instant, il n'y a aucun fondement dans des sources. Aujourd'hui, quand même, la plupart des exégètes pensent qu'il n'y a pas eu d'original araméen. On pense aussi plutôt que l'auteur n'est pas le Matthieu des évangiles, mais peut-être que l'évangile selon saint Matthieu, le premier évangile, est né dans une communauté où le souvenir de cet apôtre était présent et où une communauté qui l'a marqué. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est lui qui a mis par écrit, mais il était peut-être à la source du témoignage apostolique. Donc quand on est en présence d'une tradition, on ne la balaye pas comme ça du revers de la main. L'évangile selon saint Matthieu donc a vraisemblablement été écrit directement en grec, vraisemblablement après la chute du temple en 70, et l'auteur est très sensible à la question de la loi de Moïse. Tout le chapitre 5, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Vous avez entendu qu'il a été dit, moi je vous dis. Donc on voit Jésus qui, dès le début de son ministère, interprète la loi. Et il y a dans cet évangile 14 citations d'accomplissement. Alors, je vous les donnerai tout à l'heure, après la pause. 14 citations d'accomplissement. Sur ces 14, il y en a 10 qui sont assurés, c'est-à-dire il y a explicitement c'était pour que s'accomplisse cette parole de l'Écriture ou cet oracle du prophète ou etc. Il y en a d'autres où on n'a pas cette formule, hein, ou alors on n'a pas la citation de l'Écriture elle-même. Et donc dans les autres évangiles on a beaucoup de citations de l'Écriture, d'allusions à l'Écriture, mais on n'a pas cette formule qui revient régulièrement dans l'Évangile selon saint Matthieu. C'était pour que s'accomplisse. Comprenez bien, l'Écriture s'accomplit là, dans ce que je vous raconte. Et donc, vraisemblablement, il s'adresse à des auditeurs qui connaissent bien les Écritures et pour qui c'est une vraie question. Est-ce que celui en qui on croit, c'est celui qui était annoncé, c'est celui qui accomplit le plan de Dieu, le dessein de Dieu? Pourquoi cette question? Peut-être parce que justement, le peuple juif n'a pas accueilli ce Messie qui lui était envoyé. Et si Matthieu écrit pour une communauté de judéo-chrétiens, c'est très troublant, ça. On a une trace de ce trouble dans l'Épître aux Romains, en Romains 9 à 11. Saint Paul se casse la tête avec cette question. Mais alors, qu'est-ce qui leur arrive maintenant? Est-ce qu'ils ont été rejetés? Mais non. Mais alors, comment expliquer que, alors qu'ils avaient été préparés pour ça, ils n'ont pas reçu le Messie? Bon. Donc, vraisemblablement, ces questions travaillent les destinataires de l'Évangile. Et Matthieu, j'allais dire, prend la plume aussi pour y répondre.
Donc, quand vous dites Matthieu prend la plume, c'est une communauté qui écrit?
Alors, ben non, c'est lui, mais on ne peut pas le prendre indépendamment de la communauté dans laquelle il est inséré, dont il reçoit et à laquelle il s'adresse. Il est dans le processus. Ce que j'ai reçu, je vous le transmets. Mais dans ma manière de vous le transmettre, je vous explique en même temps le sens profond. Et je réponds aux questions que vous vous posez.
Pourquoi est-il attribué à Matthieu ?
À cause de ce témoignage de Papias qui nous est rapporté par Eusèbe de Césarée.
La foi de Matthieu.
Voilà.
En plus, il était pas très... Il est cultivé en grec, pas très fort en grec.
Non, c'est Marc. C'est le style de Marc qui est beaucoup plus. Alors, parfois, on se demande si ce que Matthieu dit à propos du scribe en Matthieu 13, 51-52. Donc le scribe, qui a une fonction très importante, on voit déjà dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a un scribe très connu dans l'Ancien Testament?
En Égypte, Josué.
Pardon?
Josué.
Esdras. Esdras, chapitre 7, versets 6 à 10. Esdras, c'est celui qui en Néhémie 8... le peuple à Jérusalem a faim d'entendre la parole de Dieu. Donc il convoque Esdras en lui disant: tu vas nous lire la parole de Dieu. Et Esdras s'exécute, et quand il proclame la parole de Dieu, il la commente, il en donne le sens. Et on nous dit en Esdras 7, 6 à 10 que Esdras était un scribe versé dans les Écritures. Donc c'était un de ses chaînons dans la transmission, il recopiait les manuscrits. Mais pour les recopier, il fallait bien les connaître pour ne pas faire d'erreur. Il fallait bien les comprendre. Et donc les scribes étaient aussi ceux qui interprétaient l'écriture. C'est pour ça que Esdras est capable non seulement de proclamer la Torah, la loi de Moïse, mais de l'interpréter. Et Matthieu nous dit à propos des scribes, donc c'est à la fin du chapitre 13, qui est ce chapitre où Matthieu a regroupé un certain nombre de paraboles de Jésus concernant le royaume. Et Jésus dit à ses disciples: alors vous avez compris tout cela? Oui, lui disent-ils. Et il leur dit: ainsi donc, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Alors peut-être que Matthieu parle de lui-même là. Ce serait un scribe qui est devenu disciple du royaume de Dieu, mais qui connaît parfaitement les Écritures. Et donc il a toujours le souci de montrer comment les Écritures s'accomplissent. Et en même temps, comme il vient de ce milieu des scribes, des pharisiens, etc., Il est d'autant plus interrogé, peut-être douloureux, du non-accueil de Jésus par les scribes, les pharisiens, les autorités juives de son temps. Et donc le conflit entre Jésus et les autorités juives, que ce soit les autorités du temple ou les autorités spirituelles qui étaient les pharisiens et les scribes, ce conflit va apparaître de manière particulièrement dure dans l'évangile selon saint Matthieu. Alors on arrête là, et donc dans la deuxième partie on verra au fil de l'évangile selon saint Matthieu.